Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir. Le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss. On va parler d'Hugo Radou qui reprend donc sa vie de rugbyman aujourd'hui, lui qui est toujours mis en examen pour viol. On a différentes informations à vous donner. Est-ce un retour prématuré? C'est le bras de fer dans quelques instants. Le cauchemar est terminé, c'est la punchline. Signé Paul Pogba, suspendu 4 ans pour dopage. L'international français a vu sa sanction réduite à 18 mois. Il pourra rejouer dès mars 2025, croyez-vous, à son retour au plus haut niveau. On en parle à 10h30 et puis 10h45. La crise de la soixantaine de Christophe Cessieux. Vive les entraîneurs français en Ligue des Champions. Il va tout vous dire. Ce sera à 10h45. Alors, dans les grandes gueules du sport aujourd'hui, chers auditeurs, vous allez pouvoir remporter un séjour d'une semaine au domaine skiable Les Cibelles. C'est pour 4 personnes avec les forfaits inclus. Il y a 136 pistes, 6 stations interconnectées. C'est le 4e plus grand domaine skiable de France. Pour remporter ce séjour inoubliable aux Cibelles, vous envoyez ski, S-K-Y. Je préfère le préciser. Ski au 732-16. Ski au 732-16.
Ah oui, Y important.
Bonne chance à tous. Oui, évidemment. C'est pour toi que je le précisais.
Merci. Pas de faire moi.
Michel Houellebecq. Je t'adore aussi. Michel Houellebecq a dit un jour, je ne sais pas si c'est une bonne chose de choquer. En tout cas, c'est une bonne source d'emmerdement.
RMC. Le bras de fer GG.
Oscar Jégou et Hugo Oradou, les deux joueurs du 15 de France, étaient devant la justice argentine hier. Ils sont tous les deux accusés de viol.
5 jours après les faits dont ils sont accusés, Oscar Jégou et Hugo Oradou ont été ramenés à Mendoza.
Oscar Jégou et Hugo Oradou sont dans l'avion en ce moment. Ils sont en train de rentrer en France 2 mois quasiment après avoir été inculpés pour viol en Argentine.
Ça fait 2 mois que je ne l'avais pas vu, donc c'est sûr que ça fait plaisir de le revoir. Il a pu rentrer avec nous, s'entraîner avec nous, reprendre progressivement. J'espère qu'il sera le plus vite possible et en tout cas j'ai très hâte de rejouer avec lui.
Hugo Oradou va faire son retour sur un terrain de rugby 3 mois après l'affaire de Mendoza dans laquelle il est toujours mis en examen pour viol avec violence. Le deuxième ligne de Pau sera même titulaire à 16h30 pour le déplacement à Perpignan. Information importante, hier après-midi, le parquet de Mendoza a déposé une demande de non-lieu en faveur des deux rugbyman français. Demande qui sera examinée dans 2 semaines. En tout cas, la section paloise a décidé de ne pas attendre la fin de cette triste affaire avant de le faire jouer. Une décision validée par le président du club. Hugo Oradou, titulaire cet après-midi. Est-ce un retour prématuré? Dans le coin gauche, la team non. Représenté par Denis Charvet. Et il est seul. Dans le coin droit, la team oui. Marion Bartoli, Fred Weiss et Christophe Cessieux. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier. Bonjour Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut Will.
Hello. Alors Wilfried, Pau assume parfaitement son choix.
Oui, d'ailleurs, on n'a rien voulu cacher à la section paloise et on a même aligné Hugo Oradou à l'entraînement avec les titulaires hier matin, alors que la séance était ouverte, hein, devant la presse. Le manager palois, Sébastien Piccheroni, et lui, comme on dit, droit dans ses bottes.
Rien ne l'interdit de jouer au rugby. Il est présumé innocent et il convient à ceux qu'il défend et à la direction du club d'assumer la cohérence comme ils l'ont fait depuis le début. Pour nous, c'est l'unique logique d'une étape de plus dans le processus d'accompagnement qu'on a eu depuis le début.
Et surtout depuis qu'il a été autorisé à revenir en France par la justice argentine, Oradou a très vite repris l'entraînement, hein, dès le 9 septembre, d'abord individuellement sur du physique et ensuite petit à petit avec le collectif. Et le staff a été convaincu par sa progression, son coéquipier, le centre Nathan Decron aussi.
Ça fait maintenant un mois qu'il est revenu parmi nous, il a une reprise progressive, il a rejoint le groupe, donc voilà, c'était la suite. La suite attendue, donc nous on est très heureux de pouvoir jouer avec lui demain. Je suis pas expert des deuxièmes lignes, hein, mais je pense qu'il est toujours très performant et je pense qu'il a hâte lui aussi de refouler les pelouses.
Reste à connaître l'accueil du public envers lui dans un stade bouillant comme celui d'Aimé Giral à Perpignan, un public parfois taquin, mais osera-t-il bousculer Oradou sur ce terrain-là, assez sensible évidemment. Piccheroni, lui, ne s'en fait pas.
Aimé Giral, on a l'habitude d'y aller, donc on aura un accueil comme d'habitude, un accueil avec une grosse ferveur, et donc on s'attend à un public qui va évidemment supporter son équipe et qui va pas nous supporter nous, mais comme chaque saison.
Voilà, on botte un peu en touche, mais quoi qu'il se passe aujourd'hui, quasiment trois mois après le début de cette affaire, Hugo Oradou redevient vraiment un joueur professionnel.
Merci beaucoup Wilfried Templier pour ces précisions, tu restes avec nous pour ce débat. Est-ce un retour prématuré, oui ou non, on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport, et pour l'instant c'est oui, c'est prématuré à 62%, non à 38%. Denis Charvet, tu es tout seul, tu commences le débat.
Mais Sébastien Piccaroni, l'entraîneur de Pau, l'a très bien dit, il y a une cohérence et une logique. Qu'est-ce qui empêcherait le joueur aujourd'hui de jouer? Qu'est-ce qui empêcherait? À part si, psychologique...
Mais d'abord une décision finale quand même de justice.
D'abord il est présumé innocent, c'est ce qu'il dit en préambule. Donc il dit la chose qu'il faut mettre avant tout dans ce débat. C'est-à-dire qu'il est présumé innocent, il a été mis en examen parce que sur des déclarations, sur une demande de femme à Buenos Aires, non pas à Buenos Aires, à Mendoza, pardon, mais on l'a vu, le procureur déjà a demandé le non-lieu, hier.
Il n'y a pas une décision finale de la justice, la juge n'a pas prononcé.
Est-ce que Paul savait quand ils ont dit, en fait, c'est vraiment important de savoir ça déjà.
Mais non, il ne savait pas.
Donc, c'est un peu problème. Paul a décidé de mettre Oradou sur le terrain demain, et trois heures après, tombait l'information comme quoi le parquet de Mendoza avait décidé de demander au juge de réclamer le.
Oui, mais c'est une coïncidence.
Bah, je suis pas sûr que ce soit une coïncidence.
Mais si.
Je pense que si Blondy est sur le terrain,
qu'il soit titulaire.
Je pense que si Blondy est sur le terrain, c'est qu'ils ont eu des informations par les avocats qui sont en Argentine, qui leur ont dit le prog va dire ça.
D'accord.
Donc vous pouvez y aller.
Là, par contre, là où tu dis tu penses que Pau n'a pas assez d'informations aujourd'hui sur le dossier? Tu penses qu'ils n'ont aucune information?
Mais bien sûr, je te dis qu'ils ont...
Mais bien avant le procureur, ils ont les avocats, ils leur ont transmis plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ils pensent qu'il est innocent.
Oui, mais c'est pas parce qu'ils pensent qu'il est innocent.
Il est présumé innocent.
Non, mais c'est pas parce qu'un club pense que son joueur est innocent qu'ils doivent le faire jouer forcément parce qu'il pense qu'il est innocent.
Au nom de la morale, donc il ne faut pas le faire jouer. Au nom de la morale.
Juste laisser du temps au
à la justice de faire son
travail. La justice, dans ce dossier, a été sans doute le dossier le plus rapide de l'histoire de la justice argentine. C'est-à-dire qu'ils ont décidé en quelques mois, en quelques semaines, ils les ont sortis de prison, ils les ont renvoyés chez eux. Là, ils sont en train de décider, mais sous une pression terrible, du non-lieu qui va intervenir dans quelques jours. Il faut rappeler quand même que le frère de l'avocat des joueurs est quand même le ministre de la justice en Argentine, ce qui peut quand même aider à arranger les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis juste que tant que la justice n'a pas rendu son verdict définitif.
Donc, des années, on nous a dit qu'il fallait séparer l'homme de l'artiste, et maintenant tu me dis l'inverse aujourd'hui. On dit il y a l'homme et l'artiste. Il y a le joueur.
Ils sont accusés d'avoir volé des bonbons dans un magasin. Ils sont pas accusés d'avoir menti à leur maman quand même. Tu as vu les chefs d'accusation qu'il y a? Et je trouve que c'est très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux.
C'est très sérieux, toi.
Les chefs d'accusation, c'est pas sérieux.
C'est pas possible.
À partir du moment où ils les renvoient dans leur pays, pour moi, c'est moins grave. Je suis désolé. Ça veut dire qu'ils ont des dossiers, ils ont des éléments qui font qu'ils peuvent les renvoyer.
Eh bien, attendons. C'est une question de jours, c'est une question de semaines.
Pourquoi tu veux l'exposer avant? Si tant est qu'il soit innocent, vraiment. Bon, alors effectivement, pour l'instant, il est présumé innocent, mais si tant est qu'il soit innocent. Il va y avoir un verdict de rendu. Pourquoi tu n'attends pas le verdict?
Exactement.
À partir de là, il y a un jugement. Il y a des gens qui ont déterminé qui était hors de cause.
Et là, il y a rien à dire. Mais bien sûr.
Pourquoi tu veux
Ça fait un mois qu'il est rentré.
Tu peux pas comparer.
Peut-être parce que l'audience est prévue, messieurs, dames. Peut-être parce que l'audience de ce non-lieu est prévue le 18 octobre.
Exactement.
Donc déjà dans 15 jours. Mais qu'il peut y avoir appel derrière. Et donc ça peut repousser encore de plusieurs semaines.
Oui, mais Wilfried, peut-être que Pau
dit on va pas attendre 3 mois. Non, je vous amène juste à un élément d'interrogation que peut avoir la section paloise. Peut-être qu'ils se disent qu'on va pas attendre si ça s'est repoussé encore de 3 mois.
Wilfried, c'est pas exposer ton joueur un risque justement médiatiquement de faire alors que si un verdict
que fait La Rochelle avec Oscar Jégo justement.
Il y a un non-lieu, c'est bon, tu vois.
Non mais excusez-moi,
ça amène juste un élément.
Non mais il y a un truc
que voir la section paloise.
L'exposé, ça
y est. Merci pour cet élément même si tu pensais pas être attaqué pour ça.
L'exposé, c'est quoi? C'est comme public le U, c'est que qu'on lui lance des pierres, c'est quoi l'exposé? Explique moi ce que c'est parce que je comprends pas très bien.
C'est faire jouer quelqu'un qui pour l'instant n'a pas de verdict affirmant qu'il est qu'il y a un non-lieu.
Si le joueur joue, c'est qu'il a envie de jouer, d'accord?
D'accord, mais
donc après il est
pas les gens ont envie de jouer par principe. J'ai envie de passer à autre chose.
C'est pas le problème.
Ça, pourtant, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Quoi.
Mais si, mais
le mec, bon, il a été mis en examen. Mais c'est la question.
Pas là, tu racontes.
Il a été mis en examen, mais on s'en fiche. Il est rentré. Donc, si tout va bien, donc laissons-le jouer. Laissons faire ce qui est.
Moi, je suis comme l'entraîneur de Pau. Il y a une cohérence qui fait jusqu'au niveau de la morale.
Au niveau de la morale, moi, j'aurais été le dirigeant de Pau. J'aurais attendu que la justice rende son verdict pour s'asseoir sur un truc comme ça en disant regardez, la justice a déclaré qu'il était innocent. Il est innocent. Il peut donc rejouer avec la section paloise.
Je suis complètement d'accord.
C'est tout.
Parce que c'est vrai
c'est juste une question de joueur. A priori, on se dirige vers ça.
C'est pas ça, c'est qu'ils sont salariés comme un autre et qu'ils ont besoin de qu'ils jouent.
Oui, mais l'affaire n'est pas comme une autre et on sait le retentissement médiatique que ça a eu et forcément, c'est exposer son joueur et c'est la question que l'on se pose forcément. Est-ce qu'on expose un peu trop son joueur, sachant qu'il n'y a pas eu un verdict de la justice, que ce verdict devrait avoir lieu dans quelques jours, qu'il y a une demande de non-lieu, donc c'est sûr qu'on se dirige vers le non-lieu.
Et je rappelle quand même.
Vas-y, Marion.
Que les deux procureurs en charge de l'affaire demandent à ce qu'en raison de la complexité de celle-ci, l'audience voit attribuer une durée exceptionnelle d'au minimum 3 heures pour analyser les deux parties et les arguments des deux parties. Parce que, comme l'a rappelé Christophe, l'avocat des rugbymen français est le frère du ministre de la Justice du gouvernement de Milaille, okay, donc de la région de là où on est, c'est que c'est extrêmement politisé, et en tout cas cette affaire prend une tournure politique très importante entre deux clans qui vraiment s'affrontent, et que donc dans tout ça et dans tout ce contexte, ça a été rappelé à date du 18 octobre, pour moi je trouve extrêmement prématuré d'envoyer un joueur jouer, surtout que c'est 15 jours. Une fois qu'on a 15 jours, une fois qu'on a un verdict définitif et concluant, quel qu'il soit, et on espère pour les rugbymen français bien évidemment un acquittement et qu'ils soient innocentés, à ce moment-là tu présentes bien le papier, tu voyais. Il y a eu une justice qui a été rendue. Toutes les parties sont exprimées.
Est-ce que ça doit l'empêcher de travailler? Tu es présumé innocent tant que tu n'as pas été jugé. Mais
en l'occurrence, assassiné personne.
Mais tu es quand même soupçonné d'avoir commis des
trucs terribles. Non, les copains, juste un peu de calme dans ce débat. Juste, on refait pas l'affaire. Deux, ne tombez pas tous sur Denis parce que Pau, c'est Pau qui a pris la décision de vouloir faire rejouer son club. Et après, ça peut s'expliquer. Je suis pas forcément sur la ligne de Denis, mais ça peut s'expliquer parce que un, ils ont le droit. Parce que des ministres mis en examen qui continuent d'exercer, et ben ça existe aussi.
Non mais j'y sais, tu peux avoir quand même un minimum de morale. Et surtout, quand il y a deux personnes dans la même affaire et que tu as un club comme La Rochelle qui justement prend la décision de réintégrer leurs joueurs dans le groupe pour le faire travailler, pour le faire se préparer physiquement, etc. Mais qui ne l'envoie pas sur le terrain, qui publiquement n'ont pas fait d'annonce pour son retour à la compétition, je trouve la gestion de l'affaire de leur côté bien meilleure. Donc je suis désolée. Quand en plus tu vois qu'un autre club français prend une décision qui me paraît beaucoup plus juste moralement, tu peux quand même t'appuyer là-dessus et dire que Pau a tort. On a quand même le droit de le dire.
Mais évidemment.
Peut-être que La Rochelle ne fait pas jouer Jégou. T'en sais rien du tout parce qu'il n'est peut-être pas psychologiquement au point, qu'il n'est pas physiquement au point. Il y a plein de raisons qu'on ne connaît pas, Marion. On ne peut pas juger. Et je pense que si Jégou était en forme et pouvait jouer, je le ferais jouer. Je le pense.
Je suis pas d'accord.
Toi, t'as pas de morale.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Il n'y a pas trop de temps à attendre, Denis. Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi.
Oui, non, mais
moi
ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas trop de temps à attendre. Et avec un verdict, c'est quand même plus simple et plus facile d'assumer qu'un joueur joue que sans verdict.
Moi, je comprends très bien Denis, en fait. Parce que Denis se sent. Il en a fait 50 des tournées en Argentine et dans tous ces pays-là. Il sait très bien ce qui s'est passé dans les soirées.
Non.
Et donc, il va pas
relancer. Comment se fait
pas là-dessus, quand même, pas sur ce genre de l'accusation. Juste rebondir rapidement sur l'image du club de Pau. Est-ce que ça peut se retourner contre Pau ou pas du tout?
Pas du tout, parce que je pense que le jugement de la France du rugby a les mêmes regards que moi.
Oui, enfin
la
bon.
La France du rugby.
La France du rugby, c'est pas la justice non plus. Non. Quoi.
Oui, mais bon.
On l'a vu ces dernières semaines quand même.
On va l'avoir, la justice, on va être
oui, bien
bientôt.
Sûr. Non, mais, la question qui se pose, c'est sûr qu'on se dirige vers un non-lieu, mais imagine, parce que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de retournements de situation. S'il n'y a pas ce non-lieu et que ça traîne et que finalement, il y a d'autres éléments, Pau va peut-être se retrouver un petit peu embêté, non?
Le procureur qui donne un non-lieu, tu penses qu'on va pas avoir un non-lieu?
Bah c'est le juge qui va décider.
Oh, d'accord.
On verra. Quand le proc demande au juge d'examiner
la demande de non-lieu. Mais pour l'instant, on n'a pas la décision définitive.
Je ne le savais pas la première fois.
Mais attendons que ce soit officiel et effectif.
Ok. Bon, sache, Denis, que tu as gagné un petit pourcent. C'est désormais 39 à 61%. En tout cas, ça reste 61%. Et ça retourne prématuré. C'est à 16h30, évidemment. Ce sera à suivre sur RMC, ce match entre Perpignan et Pau.
J'ai joué avec le papa de Radou.
Ah, d'accord.
Merci. Non, mais.
Donc, c'est pour ça.
C'est vrai. Si je peux finir une phrase, moi aussi, quand je suis en train de reprendre, vous comprenez que c'est terminé le débat. Donc, si on peut. Sinon, on ne va pas être très clair pour les auditeurs, les copains. Donc, à chaque fois, rajoutez pas nous engage, en plus. Merci beaucoup, Wilfried Templier, d'avoir été avec nous. Merci. Il est 10h25 et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On va parler de Paul Pogba qui a eu enfin une bonne nouvelle hier. Est-ce que vous croyez à son retour? Oui ou non? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h29 de retour dans les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, Denis Charvet, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, la crise de la soixantaine ou pas de Christophe Cessieux. C'est sa chronique, c'est son moment. Et il veut rendre gloire aux entraîneurs français. Et peut-être glisser quelques pics à un entraîneur espagnol qui n'a pas forcément réussi en Ligue des Champions cette semaine. Mais je ne dévoile pas la surprise. Ce sera dans quelques instants. Vive Éric Roy, vive Bruno Genesio, ce sera Christophe Cessieux dans une dizaine de minutes. Est-ce enfin la fin du tunnel? Suspendu 4 ans pour dopage après avoir été contrôlé positif à la testostérone en août 2023, Paul Pogba a vu sa sanction réduite à 18 mois par le tribunal arbitral du sport. Le milieu de terrain de la Juve pourra rejouer dès mars 2025. Dans quelques mois, il aura alors 32 ans. La peine initiale prévoyait un retour sur les terrains en septembre 2027. Évidemment, c'est un immense soulagement pour l'international français. C'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Le cauchemar est enfin terminé. J'attends avec impatience le jour où je pourrai à nouveau réaliser mes rêves. J'ai toujours affirmé que je n'avais jamais enfreint sciemment les règles antidopage. Je joue avec intégrité et je tiens à remercier le tribunal arbitral qui a entendu mes explications. Ça a été une période extrêmement pénible dans ma vie. J'ai hâte de revenir sur le terrain.
12 voix évidemment de Paul Pogba. Croyez-vous à un retour de Paul Pogba au plus haut niveau? Oui ou non? Denis Charvet.
Oui.
Christophe Cessieux.
J'ai un peu de mal.
Marion Bartoli.
Oui.
Fred Weiss.
J'ai du mal.
Avant de vous écouter, Patrice Evra était hier sur RMC, nouveau consultant de la bande Rotten sans flamme. Et évidemment, il a appris cette nouvelle pendant l'émission. Sa première réaction à cette annonce donc de sanctions réduites pour Paul Pogba. Patrice Evra.
J'étais avec Paul il y a même pas 3 semaines et il était très confiant. Moi, je pense que c'était déjà très sévère. Il y a des joueurs, compris même de la coke, etc., qui ont pris des 18 mois. Je trouve qu'il voulait donner un exemple. Mais aujourd'hui, justice est faite et franchement, je suis plutôt soulagé. Il va retrouver les terrains, s'entraîner parce que malgré tout, il avait même pas le droit de s'entraîner avec la Juventus. Ils l'ont complètement mis à la cave. J'ai un truc incroyable, donc il en a souffert. Et aujourd'hui, je suis très content pour lui.
Et voilà, Patrice Evra, forcément, son copain est très content. Pour lui, sachez qu'il a aussi ajouté qu'il est à 99%, il ne rejouerait pas à la Juve. Il a même dit qu'il allait appeler Mehdi Benassia, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, pour qu'il aille à l'OM. Voilà ce qu'a dit Patrice Evra hier dans Rotten sans flamme. Pourquoi t'y crois pas, Fred Weiss?
J'ai du mal à y croire parce que il aura 32 ans quand il va revenir. C'est une coupure d'un an et demi sans être en compétition. Même si tu joues pas de match, t'as les entraînements collectifs, etc. Et il vient de l'expliquer. Il a pas eu la chance de faire ses entraînements collectifs. C'est quelqu'un qui a en plus des précédentes blessures très importantes au niveau musculaire. On s'est rendu compte avec Mbappé notamment que quand on est au frigo pendant quelques temps, revenir dans une saison, c'est compliqué. avec 6 ans de plus, 7 ans de plus pour Pogba, mentalement, dans quel état d'esprit il est, c'est difficile quand même. D'un seul coup, se dire, je vais plus jouer au foot et se dire finalement, bah, je vais jouer. Je pense que mentalement, c'est difficile aussi. Il va falloir une préparation. Alors oui, je le souhaite. Alors oui, il y a une possibilité parce que c'est quand même un grand compétiteur et l'équipe de France, en plus, aurait bien besoin d'un milieu de terrain. Mais concrètement, sur les arguments avancés, j'ai mis quand même beaucoup de doutes avec son passif de blessure surtout.
Ok, les doutes. Marion Bartoli.
Alors pour moi, je pense qu'il va revenir parce qu'il va revenir avec un esprit encore plus revanchard. Je pense que justement, les difficultés qu'il a dû endurer ces derniers temps, non seulement pour cette affaire dopage, mais aussi pour les problèmes extra-sportifs, notamment avec son frère et tout ce qu'il y a eu, je pense qu'il y a une accumulation pour lui qui a été terrible.
Et oui, parce qu'il n'y a pas que cette histoire de
exactement.
Dopage hein, dans la vie de Pogba.
Et que là, en fait, il y a une espèce de rédemption en se disant bah, j'ai une deuxième chance et j'ai une chance de très bien finir ma carrière.
C'est ouais, un bon, jeu. Tu ne peux pas gérer ton corps. Hein. C'est pas parce que tu te dis mentalement que tu vas être bien
là,
que ton corps va être
oui, mais tu ne peux pas y répondre encore.
Oui, c'est pour ça.
Déjà, de un, tu ne peux pas y répondre. De deux, je pense qu'il a des qualités en milieu terrain qui sont totalement exceptionnelles, avec notamment des qualités techniques où il est capable de quasiment tout faire comme très rarement on a eu en équipe de France, voire jamais. Parce que quand tu reprends l'équipe de France 2018 quand il gagne en Russie, c'est lui
Marion,
qui est un leader,
qui est
un leader exceptionnel,
sur le terrain,
sur le plan technique, et un leader, et un leader exceptionnel dans le vestiaire. Après, physiquement, bien évidemment, il faut qu'il se remette en forme. On ne sait pas ce qu'il a été capable de faire parce que lui, quand on écoute énormément de ses interviews, je pense qu'il était persuadé qu'il allait rejouer au foot. Donc, il peut aussi s'entraîner, prendre des préparateurs physiques en dehors, faire plein de choses en dehors pour garder un certain niveau de forme, même si t'as pas le ballon.
L'entraînement collectif ou en tout cas, et l'entraînement individuel, ça n'a rien à voir, Marion.
Oui, mais tu peux garder un certain niveau de forme. Je te dis pas que demain, il va intégrer l'équipe de France et qu'il va jouer. Mais laisse-lui le temps, laisse-lui retrouver un autre club qui part de la Juve, c'est quasiment certain, voire acté. Et qu'il aille se refaire dans un environnement qui sera propice à la fois son développement personnel, se remettre à 100% impliqué dans le foot, pas penser à autre chose et repartir sur un terrain neutre. Je pense qu'il en a largement la capacité de le faire. D'autant plus qu'à ce poste-là, Griezmann, on n'est pas certain qu'il revienne en équipe de France. Peut-être s'il y a un changement de sélectionneur, il reviendra, mais sinon, il ne reviendra pas. N'Golo Kanté, au niveau du mondial en 2026, il aura quand même 35 ans. Il joue en Arabie Saoudite depuis quelques années. Donc, ce poste-là, si Paul Pogba n'est pas blessé et qu'il a quelques mages dans les jambes, je peux t'assurer qu'il sera pris en équipe de France.
Je vous pose la question de savoir si c'est si vous croyez au retour au plus haut niveau de Paul Pogba. Et quand je vous entends, vous me répondez via le prisme de l'équipe de France. C'est une grande nouvelle hier pour l'équipe de France, ce qu'on a eu hier avec Paul Pogba.
Pour l'équipe de France, non. Pour l'équipe, on en est tellement loin, là. Là, déjà, il va être autorisé à rejouer en mars 2025. Il aura 32 ans. Avant cette histoire, il a eu 3 ou 4 saisons où il a été blessé constamment. La cheville, le genou, il était blessé partout.
Des problèmes musculaires.
Plus de 1000 jours de blessure.
1000 jours de blessure. Et vous l'imaginez aujourd'hui, à 32 ans, alors que toutes les stars de la Coupe du Monde 2018, tous les champions du monde, sont en train petit à petit de quitter l'équipe de France. On a eu l'exemple avec Griezmann. Vous l'imaginez? Demain, Paul Pogba revenir et dire ça y est, je suis de nouveau le taulier avec le maillot de l'équipe de France. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'il peut arriver à revenir.
C'est ce qui va le guider, le motiver. Ce ne sera pas le jouer en club.
Ben, peut-être. Mais c'est très bien. Je veux dire, il y en a qui à 32 ans décident de quitter l'équipe de France. Il y en a d'autres qui rêvent à 32 ans de retourner en équipe de France.
Mais avec ce qui s'est passé sur les deux, trois dernières années, bien évidemment, c'est ce qui peut rêver, surtout avec son rôle en l'équipe de France.
Moi, je pense qu'il retrouvera un niveau pour jouer dans un bon club. Peut-être un bon club français, mais que les grands clubs européens, je pense que c'est râpé, et l'équipe de France, là aussi.
Ok, Denis.
Écoute, moi j'ai envie de me raconter une belle histoire et surtout voir le biopic de Pogba au cinéma.
Je suis là s'il faut.
Non, pas de Fred Weiss dans un biopic, on l'a déjà rappelé.
C'est incroyable la trajectoire de ce garçon, je crois qu'elle est unique dans le monde du foot. Et ça serait tellement beau de le voir finir. Non, mais son frère, on n'est pas là pour parler de cette affaire.
Ah bah, si tu veux faire un film sur Pogba, tu vas être obligé de traiter de ses affaires de famille quand même.
C'est pas moi qui veux le filmer. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de le voir au cinéma en tant que spectateur. Voilà, j'ai envie de voir la fin, une fin hollywoodienne. Hollywoodienne où le mec, il va s'en sortir, il va renaître ses cendres.
Denis, tu sais que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie.
Non, mais attends, laisse-moi finir.
C'est possible.
Avec une renaissance extraordinaire, de revenir à son meilleur niveau. Évidemment, tu parles des blessures, on s'en fout des blessures, ça fait partie de la vie de la carrière d'un joueur qui te dit qu'il sera plus blessé. Moi, j'aimerais qu'il soit plus blessé, donc après, évidemment qu'il a eu des blessures graves, mais ça va pas dire qu'il va les avoir toute sa vie. Donc, peut revenir à 32 ans, il est jeune.
Plus tu dépasses les 30 ans, plus c'est
non, plus parce qu'il a arrêté.
Tu encaisses les blessures.
Il a eu le temps de se régénérer, même si ça l'a affecté. Et je crois, comme a dit très justement Marion, cet esprit de revanche qu'il va avoir, je pense qu'il va être salutaire parce qu'il est. C'est pas un garçon qui est négatif. Tu le sens pas négatif. Et je crois que son côté positif va prendre le dessus et qu'il va renaître de ses cendres et qu'il va faire une et qui pourquoi pas va revenir en équipe de France.
Et le timing autour de l'équipe de France est assez étonnant, hein, Christophe.
Oui.
On a parlé la semaine où Antoine Griezmann veut arrêter la sélection. On apprend que Paul Pogba non pas va rejoindre l'équipe de France mais va pouvoir reprendre très vite le foot de haut niveau.
Rappelez-vous quand même des discours dans le vestiaire de Paul Pogba sur la Coupe du Monde 2018, notamment avant la finale ou pendant la mi-temps. Rappelez-vous de ces discours. On a tous vu sur YouTube,
on est
etc.
Plus d'accord avec ça, c'était il y a 6 ans. On est en train de parler s'il est capable maintenant.
Mais quand t'es un leader, t'es un leader à vie.
Un leader qui ne décide pas ton corps. Donc, franchement, il a été blessé énormément. Il revient après un an et demi d'arrêt.
Tu peux apprendre plein de choses sur la nutrition. Tu peux apprendre plein de choses sur comment gérer justement tes blessures. Tu peux apprendre plein de choses sur comment t'entraîner.
Ça, faut lire ton bouquin, Marion.
Oui, totalement.
Parce que Paul Pogba apprend plein de choses sur la nutrition.
Exactement.
Tu peux lui envoyer d'ailleurs.
Oui, je vais lui dédicacer. Tu peux arriver justement à prendre du recul, à te dire que là, j'ai pris des compléments alimentaires qui m'ont pas convenu. J'ai fait un type de préparation avec un préparateur
physique.
Exactement.
Oui,
tu peux
avoir des déficits de ton corps qui sont comme ça, des carences et ça arrive à tout le monde.
Ses capacités techniques, sa capacité à aller en France, sa capacité à dribbler, sa capacité à marquer, sa capacité à passer, il ne va pas les perdre.
Non.
Ça restera quand même un immense joueur de foot et un immense
joueur
de foot.
Moi,
j'y prends Paul Pogba.
Il y a Giuseppe qui nous appelle au 32-16 et qu'il veut apporter un autre regard, peut-être un autre versant de la question posée par rapport à ce retour donc en mars 2025 de Paul Pogba. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai l'impression que tu as bondi en entendant les GG ce matin sur ce débat.
Eh ben ouais, un petit peu, parce que étant moi-même supporter de la Juventus et j'ai été un grand admirateur de Paul Pogba, notamment sur son premier passage à la Juve, je suis hyper étonné d'entendre aujourd'hui autant de discours réjouissant sur le retour de Paul Pogba, dans le sens où on parle quand même de quelqu'un qui s'est dopé, quelqu'un qui a triché, qui a été condamné, qui n'aura même pas purgé la totalité de sa peine. Alors,
bien sûr, mais il aura purgé la peine qu'on lui a infligée finalement, parce qu'il ne va pas revenir de son fait, c'est qu'on on l'a autorisé à revenir.
Vas-y,
j'entends, mais il y a un côté moral où en ce moment on essaye, on le voit dans le tennis notamment avec Sinner aujourd'hui, on essaye de nettoyer le sport des gens qui ont utilisé des produits, des substances dopantes. Faut aussi penser à tous les autres joueurs qui eux n'utilisent pas ces produits-là pour être performants ou autre, alors que ce soit intentionnel ou pas. Quand aujourd'hui on a une triche, moi je viens du monde de l'athlétisme, dès qu'on a un tricheur, le retentissement, il est beaucoup plus important, et surtout, on ne souhaite pas revoir ces gens.
Oui, mais tu, à ce moment-là, tu ne crois pas à la rédemption, parce que là, c'est quand même chez lui une forme de rédemption de revenir. Il ne va pas se redoper à nouveau, je veux dire, j'imagine.
Mentalement et tout, je l'entends, Denis, et j'espère pour lui. Mais il y a un côté aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté physique, physiologique.
Ah,
et si on parle de performance, il ne faut pas oublier que ces gens-là, et surtout là, c'est de la testostérone, hein, si je ne dis pas de bêtises,
oui, c'est ça.
Bénéficient de possibilités d'entraînement, de tout ce que ça va apporter comme supplément au corps, que les autres n'ont pas. Et donc, il y a un aspect, si on prend l'actualité, je pense à un mec, je suis hyper déçu par un mec comme Sinner, on n'arrive pas à savoir vraiment le vrai du faux, mais aujourd'hui, le dopage, c'est un fléau dans le sport, et je pense qu'on ne peut pas se réjouir, même si le tribunal prend une décision, de voir des peines aussi raccourcies, parce que ça banalise presque le truc.
Rapidement, les juges sur ce dossier, parce que vous l'avez. Non, c'est pas le même cas, on ne va pas comparer les deux, mais restons sur Paul Pogba. Sur le côté, il a été pris pour dopage, il y a une sanction qui est réduite, et Giuseppe nous dit j'arrive pas à comprendre qu'on se réjouisse du retour de Paul Pogba, sachant qu'il a triché. Ça, vous l'entendez ou pas?
Non, moi, j'entends pas, parce qu'il a purgé sa peine. En fait, en gros, il a une peine, il est pris. Il a purgé sa peine, on l'autorise à reprendre. Pourquoi il n'aurait pas le droit de reprendre?
Il n'a pas purgé sa peine, c'est le tribunal arbitral du sport qui a décidé de passer la peine de 4 ans à 18 mois.
Oui,
donc,
parce que ce n'était pas un dopage intentionnel.
Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu un sportif dire « je me suis dopé »
Mais oui, mais la
sanction, semaine après semaine, c'est la même chose. C'est ah, j'ai pas fait exprès. Ah, j'ai pas pris le bon produit. Ah, c'est quelqu'un qui m'a massacré.
Christophe, il a pris une sanction et il va la purger, c'est tout.
De plus en plus, les autorités antidopage font preuve de mansuétude à l'égard des gens qui ont été pris. Donc, je pense que c'est. Mais non, mais je vous dis juste ce que je pense. Je pense que c'est un très mauvais message envoyé aux gens qui ont décidé un jour de se doper. Quand ils voient que les mecs, au bout de 18 mois, sont acquittés, que tout va bien et qu'ils peuvent redevenir des stars, eh ben, je pense que c'est un peu.
Mais 18 mois, c'est énorme dans une carrière.
Oui, les 18 mois, c'est énorme.
Tu es en train de relativiser 18 mois d'une carrière de c'est énorme.
Et c'est
une sanction. La sanction pour dopage, c'est 2 ans. Donc, 18 mois, c'est moi. 18 mois, c'est déjà moi.
Pour toi, c'est pas assez, quoi. Toi, il faudrait.
Non, c'est 2 ans. Deux ans de suspension.
18 mois. Je veux dire, c'est énorme.
Donc, mais parce que sa sanction a été décidée en fonction de la gravité des produits qui ont été pris par l'Agence mondiale antidopage. Mais je sais, mais toi, il faudrait laisser tout le monde se doper. Tout le monde décider de quand il veut aller en équipe de France ou non. Tout le monde, enfin, je veux dire, c'est bon. Et que la justice argentine, on n'a rien à faire. Parce que moi, je suis le monde du rugby et que je sais tout. Donc, t'as raison. Laissons tout faire, Denis. Laissons tout faire.
Moi, je crois à la rédemption. Je crois aussi à un moment donné
à la seconde chance.
Et à la seconde chance, bien sûr.
Et à la seconde chance. Exactement.
Mais la seconde chance.
Alors, après ça veut dire qu'il n'y a pas de seconde chance.
Pourquoi il n'y a jamais de seconde chance?
Avoir purgé sa peine.
Et c'est ce qu'il va faire. 18 mois.
Et quand
c'est
même,
pas de sa faute, Christophe.
Et quand même, c'est lui.
Il va pas dire non, les gars.
C'est
je prends 6 mois de plus.
À 18
mais
mois.
Mais si c'est passé de 4 à 18 mois, c'est qu'il y a des raisons.
Le tribunal arbitral du sport
a estimé.
Mais il doit y avoir des preuves.
C'est lui qui devrait décider en matière d'antidopage. C'est l'AMA qui décide en matière.
Ah, mais non, t'es plus fort. Donc tu décides.
Mais il faut bien le rappeler, je pense au couvert de Christophe qui a longtemps subi ces histoires, que régulièrement, quand un sportif est pris pour dopage, souvent la peine est réduite. Alors, je dis pas qu'il faut passer de 4.
Et comme dirait Marion, quand un sportif est pris pour dopage, c'est souvent un cycliste, non? Un Marion.
Bon, on va pas lancer le débat. On ne va pas lancer le débat.
C'est quand même Lance Armstrong et Marion Jones. Je suis pas sûr que Marion Jones a du cyclisme.
On a parlé et réécouté en podcast Sinner la semaine dernière et vous comprendrez la bisbille entre là-dessus sur ce dossier entre Marion et Christophe. Merci beaucoup Giuseppe d'avoir composé le 32-16. T'as bien réveillé le studio, même si évidemment vous étiez déjà bien réveillé dès 9h du matin dans les grandes gueules. Dans quelques instants, 10h40. La crise de la soixantaine de Christophe Cessieux. Vive les entraîneurs français en Ligue des Champions. À vous de trancher ensuite. Vous me direz si vous êtes d'accord avec Christophe ou non. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, Denis Charvet, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous dans 10 minutes. À partir de 11h, nous allons tout vous dire sur cette affaire Lassana Diarra qui a secoué le monde du foot hier. Est-ce un tournant pour les mercato? On va tout vous raconter et nous serons notamment avec une avocate en droit du sport justement pour tenter d'expliquer cette affaire. Mais tout de suite, ce sera le 20 avril prochain. Il aura 60 ans. Alors, nouveauté dans cette émission, c'est l'instant Cessieux.
RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul sur tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol.
J'adore ce jingle. La crise de la soixantaine tous les samedis avec Christophe Cessieux qui viendra saluer une performance, piquer sa crise. À vous de me dire ensuite, les GG, si vous pensez que c'est dû à la crise de la soixantaine ou non. Christophe a largement raison de nous en parler. Christophe, tu nous proposes quoi aujourd'hui?
Alors moi, je vais vous parler de cette semaine européenne où on s'est régalé. Alors c'est vrai qu'on s'est plus trop donné de la tête hein, avec cette nouvelle formule. Ça commence à 18h45, l'heure de l'apéro ou des devoirs à faire aux gamins ou du bain. Ça se poursuit à 21h. On n'a même plus le temps de finir son dessert qu'il faut déjà se retrouver devant la télé. Et ça finit à minuit, juste le temps d'aller roupiller pour le lendemain être en forme pour une nouvelle soirée de Ligue des Champions. Après, il faut dire quand même qu'on se régale avec nos clubs depuis le début de la compétition. Ça tombe de partout, des perfs à plus savoir qu'en faire, des cadors qui repartent à la maison, le museau bas et la queue entre les jambes. Mais pourtant, je croyais que notre Ligue 1 ne préparait pas assez bien nos clubs à la grande Ligue des Champions. Et que c'est pour ça, Denis, que le PSG l'avait pas encore gagné. Bah oui, c'était logique. Alors je veux bien, moi, que le championnat ne prépare pas assez bien le PSG, mais les autres, en revanche, ils touchent leur bille en C1. Monaco, Monaco par exemple, qui d'entrée fait mordre la poussière au Grand Barça. Grand Barça qui est quand même pas un très bon souvenir pour les supporters du PSG. Est-ce que vous imaginiez ça une seule seconde? Eh ben pas moi. Et puis pour pas faire de jaloux et faire enrager ce rageux de Javier Tebas, la Tipac cette semaine, c'est le Real qui est tombé. Rien que ça, face à Lille, le grand Real, invaincu depuis le mois de janvier dernier et qui au bout de 36 matchs perd contre Lille. Ça, on n'y était pas préparé et je dois dire que ça fait quand même le plus grand bien à notre orgueil de coq gaulois de voir ses équipes se faire rouler dans la farine par nos petits clubs de Ligue 1. Et puis quel bonheur de voir le sourire sur le visage de ce bon Bruno Genesio qui avec sa bouille et son air de pas y toucher est en train de se transformer en dompteur de fauves, en tombeur de cadors. Et si on s'est longtemps moqué de son surnom Pep depuis qu'il a battu le grand Guardiola, il va falloir arrêter de se gosser d'autant qu'on lui a trouvé un nouveau surnom. Désormais, appelez-le Carlo. Carlo Genesio. Ça sort bien, non? Ça pourrait donner envie à des grands clubs français de le recruter. Bah oui, un coach avec un nom italien ou espagnol, ça a plus de gueule et je suis certain que Nasser, le patron du PSG, pourrait s'y intéresser, pourrait tomber dans le panneau. Alors évidemment, Eric Roy, avec un blast pareil, ça va être plus compliqué de le faire passer pour un Rital. Ok, mais vous avez regardé le classement de Brest en Ligue des Champions. Ils sont deuxième, les Bretons, devant tous les cadors. 6 points en 2 matchs. Plus de 4 millions de primes UEFA dans la poche. Encore un ou deux matchs comme ça, ils vont dépasser le budget de l'OM et du PSG. Bon, faut pas s'emballer, vous me direz. Ils n'ont battu que des clubs autrichiens. D'accord, mais ça compte pareil que si tu bats le Barça, le Real ou Arsenal avec cette nouvelle formule. Enfin, Arsenal, ceux-là, on les a pas... Hein, Denis, on les a battus, plus. Brest, donc, deuxième de Ligue des Champions et qui, au lendemain de l'exploit, laisse son coach venir discuter le bout de gras chez Rotten pendant un quart d'heure et de blaguer avec Pascal Olmeta, racontant quelques hauts faits d'armes aux gardiens corses lorsqu'ils jouaient ensemble. Écoutez, c'était dans Rotten sans flamme.
Ouais, Eric, tu peux dire, tu n'as pas connu de gardien comme moi depuis.
Je te rassure. Comme toi, j'en ai jamais connu. Oui.
Jamais. C'est vrai.
Écoute, non, alors Bizot, il est beaucoup plus pragmatique que toi.
Ah, c'est gentiment dit, pragmatique.
Non, je vais vous raconter, les gars, parce qu'il faut raconter ça. Quand il y avait un ballon dans la profondeur, à Lyon, donc Marco Bizot, quand il y a un ballon dans la profondeur, il anticipe, il met un grand coup de pied dans le ballon et puis il envoie dans la tribune, vous voyez. Donc, bon. Donc là, on est tranquille. Pascal, lui, quand le ballon arrivait dans la profondeur, il contrôlait le ballon. Déjà, les attaquants, ils arrivaient. Comme ils avaient peur, ils s'écartaient un peu, et puis ils partaient. Ils partaient dans sa tenue de balle chaloupée, ils dribblaient un ou deux, trois joueurs. Bon, ils défendaient pas beaucoup, parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils lui pètent un tacle, voilà, ouais, qu'ils s'écartaient. Et puis nous, comme je te dis, on courait tous dans le but, inversement, parce qu'on disait, si jamais il perd le ballon,
on est mort.
Il faut quand même qu'on assure.
Voilà, discussion à bâton rompu. Moi, c'est ça que j'aime dans le foot. On trouve parfois encore des mecs normaux qui pètent pas plus haut que leurs fesses, passionnés par leur métier et qui répondent aux interviews sans se prendre la tête, sans envoyer bouler, pour pas dire autre chose, des journalistes qui osent, oui, qui osent poser des questions sur leur schéma de jeu. Alors peut-être qu'on n'est pas au niveau, pas capable de comprendre les tactiques dignes de la NASA, de l'ingénieur en chef Luis Enrique. Oui, peut-être bien, mais moi je vous le dis heureusement qu'il existe encore dans ce milieu des mecs comme Roy, des mecs comme Genesio et pas que des fiefs et prétentieux à la mode espagnole.
Merci beaucoup,
bravo
Christophe.
Bravo, Christophe.
Bravo. Alors, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec Christophe ou c'est dû un petit peu à la crise de la soixantaine?
Non, on est complètement d'accord.
Écoute, après la sortie de Luis Enrique, je suis 10 fois plus d'accord. Non, mais ça va.
Il a complètement raison.
Il y a un tel mépris parfois que ça fait du bien, c'est frais. Et puis, comme il le dit, c'est bon enfant d'écouter ces histoires. Et puis, c'est parti du sport.
C'est le lendemain du match, son club l'autorise à aller discuter pendant un quart d'heure avec des journalistes, avec des copains. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre. C'est un bon esprit. C'est, on se marre, on parle tactique.
Le problème, c'est que ça parle tactique.
Le problème de la fonction d'entraîneur, ça rentre parano complètement. Et tu le vois, Luis Enrique, c'est un dingue, quoi. Enfin, tu vois, il est pas comme nous. Il est habité.
Ah, mais il est passé de l'autre côté.
Oui, il est passé de l'autre côté. Alors qu'Eric Roy, il est super. En plus, c'est un copain en plus, mais il est super dans tout ce truc. Genesio, pareil.
Après, les défenseurs de Luis Enrique pourront toujours vous rétorquer. Je te lance là-dessus, Marion. Mais ils n'ont peut-être pas la même pression que Luis Enrique au quotidien. Et ils n'ont pas non plus.
Tu crois qu'Eric Roy n'a pas la pression? Alors,
Eric Roy, il a la même pression.
Évidemment, il est là, il arrive. Il n'a plus été entraîneur pendant des années. Il arrive, il est nommé à la tête de Brest. Il arrive à qualifier Brest. Tu ne crois pas qu'il n'avait pas la pression dans les dernières journées de championnat, les dernières, quand ils étaient en passe de se qualifier?
Même en début de saison.
La pression, elle est quasiment identique.
La com de Luis Enrique, elle est indéfendable. Et je suis désolée d'à chaque fois rétorquer, et ça fait depuis un moment, et ça fait depuis un moment qu'on a ces débats, et à chaque fois que je dis la même chose, de rétorquer systématiquement aux journalistes qui n'y comprennent rien, qui sont complètement débiles, et de toute façon, exactement, et qu'il n'y a que lui qui, en, comme le dit Chris, en bon ingénieur de la NASA, qui est capable de prendre sa tactique. S'il est si fort que ça, comme le disait mon père, tu dois être capable d'expliquer très simplement quelque chose de très compliqué. Donc, comme on est complètement débile, qui nous explique très simplement ce qu'il fait de très très compliqué. Mais je suis désolée, tu peux pas systématiquement te cacher en disant ah non, mais moi je suis un génie absolu, vous avez compris absolument rien à rien. Donc, c'est même pas la peine, je ne me rabaisse pas à votre niveau. C'est inaudible, inentendable. Et heureusement qu'on a des entraîneurs français. Et tu l'as dit, Chris, très justement, Bruno Genesio. Alors oui, c'était une finale des champions un petit peu particulière pendant la finale Covid, mais il a quand même tapé City de Guardiola avec en le battant tactiquement là-dessus, et c'est un fait d'armes qui est important. Donc les coachs français ont cette capacité d'avoir de très très bons résultats, et soyons en fiers.
Dans tous les sports, on a cet exotisme d'aller forcément chercher des coachs à droite, à gauche,
qui sont surcotés souvent.
C'est effectivement, ça fait plaisir.
Mais je sais pas si vous avez entendu le discours d'après-match de Genesio, il est formidable. Le recul qu'il a, ce qu'il dit avec l'humilité qui est la sienne, c'est assez incroyable.
Et Margot Dumont qui lui pose des questions, on peut parler tactique avec un grand sourire, non, évidemment.
C'était super, et c'était tellement différent de l'autre.
C'est vrai. Ok, merci en tout cas, Christophe. Donc c'est pas dû à la crise de la soixantaine, comme quoi tu es extrêmement jeune, mon cher Christophe. Tu vois, tout le monde le dit.
Jeune.
Voilà.
Il les a pas encore.
Mais c'est pour ça. On verra dans quelques mois.
Quand je les passerai, je serai comme Denis.
Je reprends la main et j'en profite pour saluer Walter, le papa, oui, qui a fait référence il y a quelques instants. J'imagine qu'il nous écoute.
Absolument.
Il écoute toujours sa fille dans l'émission. Oui. Bah voilà, on embrasse Walter. 10h56, on se retrouve dans quelques instants pour vous expliquer un dossier extrêmement compliqué, mais c'est important de prendre le temps dans cette émission, l'affaire Lassana Diarra, qui pourrait changer le monde du football et les transferts dans le football. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.